tout le XVIIe siècle voit la mise en place progressive d'un formalisme qui s'exprimera non seulement dans la recherche mathématique, physique, mais aussi dans la langue. Écoutons aujourd'hui Henri Van Leer comment Descartes a pu conjuguer à la fois sa logique et son écriture, comment son style même est non seulement l'expression de sa pensée, mais l'exercice fondamental de sa pensée.
Est-ce que Descartes est un philosophe ? Est-ce que Descartes est un littérateur ? Certainement n'est pas philosophe qui veut. Être un philosophe au sens plein du terme, c'est avoir introduit une nouvelle catégorie, une nouvelle façon de voir les choses, et surtout de pouvoir apporter des attributs aux choses. Alors, il est bien certain que quand Parménide dit « l'être est, le non-être n'est pas », si fou que ce soit, si faux peut-être que ce soit, c'est un philosophe. Il a introduit une nouvelle catégorie, après quoi il n'a plus rien à ajouter, il peut partir, il est un des 10 ou 15 philosophes de l'histoire humaine. De même, quand Héraclite va parler de la fameuse palintropos harmonia, de cette harmonie qui tire dans l'autre sens, comme de la harpe ou d'un arc, comme il dit, qui fait que les contraires peuvent s'équivaloir, il apporte une nouvelle catégorie. Est-ce que Descartes a fait ça? Il y en a qui en ont parfois douté. Mais sans doute que l'idée de penser à la manière cartésienne peut être considérée comme une catégorie. C'est à la fois un type d'être et c'est à la fois un type de relation essentielle entre les êtres qui est, c'est faux ou c'est vrai, c'est peut-être aussi fou que l'être est, le non-être n'est pas, ou que le palintropos harmonia, mais ça a, semble-t-il, cette même force d'institution. Et donc, la première chose à savoir, c'est d'essayer de bien saisir ce qu'il entend par penser. Alors, le mieux, c'est de se fier à lui. Par le mot de penser, j'entends tout ce qui se fait en nous, de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. C'est pourquoi, non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la même chose ici que penser. Donc si on me marche sur le pied, je le sens. Et ce que je sens là, je le sens d'une manière immédiate. J'en ai une apperception immédiate, et c'est bien cela qui est pensée. Nous avons commencé à percevoir quelque chose de ça chez Bérulle, dans l'exercice de l'intériorité de Bérulle, mais chez Descartes, comme une véritable catégorie philosophique, ça va se mettre à faire bouger absolument tout l'univers autour de soi, ou plutôt, dans ce cas-ci, à réintégrer tout l'univers autour de soi. Parce que Descartes, homme du XVIIe siècle, c'est-à-dire sortant de la consistance des choses de Montaigne, sortant, j'allais dire, de la chanson de Roland, de Carles Lyreis, Nostrem Perere Magnes, saisit tout directement comme substance. J'ai dit que quelqu'un lui marche sur le pied ou qu'il s'est fait mal au doigt, ou qu'il se dit que 2 et 2 font 4, peu importe, mais je préfère prendre les exemples les plus humbles, ou qu'il a entendu un son. Alors, il n'est pas question de dire que ce son existe. Il n'est pas question de dire que j'ai un pied véritable et qu'on m'a marché dessus, mais que j'ai eu la sensation ou le sentiment, là il faudrait choisir le mot, que on m'a marché sur le corps. Et voici qu'il ose, dans un mouvement incroyable, écrire ceci, puis, c'est presque aussi fort que le « là » de Malherbe, puis, examinant avec attention ce que j'étouais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse. Ah voilà, nous avons déjà rencontré ce mouvement dans l'astrée. On se balafre le corps pour que ce ne soit plus à partir du corps ou pour le corps que l'on soit saisi, mais en raison d'un autre principe. En tout cas, ce que nous rencontrons ici, c'est l'extraordinaire vitesse de notre « là, pour le dessert, troussez-moi cette cote !» Puis, examinant avec attention ce que j'ai trouvé. Je ne vais plus recompter les syllabes, mais c'est 15 ou 16 syllabes. Et puis de nouveau 15 ou 16 syllabes. Et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et c'est très souvent d'ailleurs des nombres impairs, ça doit être sans doute 15, 17, des choses comme ça, et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse. Donc, je balaye tout du regard en un instant. Et pourquoi balaye tout du regard en un instant? Parce que c'est la seule façon de totaliser. Et tout le mouvement de la pensée cartésienne va être ça. Comment arriver à voir que il y a un rapport entre A et B, qu'il y a aussi un rapport entre B et C, puis C et D, D et E, arrêtons-nous là, puisque lui s'arrête là aussi quand il en parle, et d'arriver à ce que le parcours soit si rapide qu'en même temps, je puisse vraiment voir comment A et E ont rapport entre eux par-dessus les relations de A, B, B, C, C, D, D, E. Est-ce que Descartes lisait le texte à la vitesse à laquelle nous le lisons? Nous n'en savons rien. Mais ce qui est éclairant, c'est le point de vue des musiciens. Il y a une règle du musicien, quand il se trouve devant une œuvre de Bach, par exemple, il dit, ben, normalement, elle ne doit pas être jouée plus vite que ça, parce que les instruments de l'époque ne pouvaient pas jouer plus vite que ça. Et en même temps, on ne peut pas jouer plus lentement que ça, parce que sinon on ne comprend plus rien. Alors, est-ce que les gens du temps de Descartes, les gens du temps de Corneille, nous allons retrouver le problème chez Corneille, avaient un tempo différent du nôtre, c'est-à-dire que leur vitesse intérieure permettait une lenteur extérieure plus grande? C'est parfaitement possible. Mais ce qui est important, de notre point de vue, c'est la vitesse interne du texte, mais qui est en tout cas donnée dans sa structure textuelle cette fois-ci. Puis, examinant avec attention ce que j'ai trouvé, et voyant que je pouvais feindre que je n'avouais aucun corps, et qu'il n'y avouait aucun monde ni aucun lieu où je fusse. Et alors, regardez la vitesse qu'il faut, parce que voilà un premier argument, mais il faut tenir le second. Mais que je ne pouvais pas feindre pour cela, que je n'étais point. Deuxième argument. Mais il y en a un troisième, qu'il faut tenir en même temps. Nous sommes à peu près maintenant entre C et D. Et qu'au contraire, de cela même que je pense ou ai à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment et très certainement que j'étouais. Mais nous n'avons pas fini. Nous sommes au centre, sans doute. Il faut encore tenir ceci. Il n'y a toujours pas de point. Au lieu que si j'eusse seulement cessé de penser, encore que tout le reste de ce que j'avais imaginé eût été vrai, je n'avais aucune raison de croire que j'eusse été. Et maintenant, enfin, nous allons pouvoir tirer les conclusions. Si nous avons tenu bien ce A et un rapport à B, B un rapport à C, etc., jusqu'à E, F. Je connus de là que j'étois une substance. Ah, voilà. Si je suis une pensée, je suis une substance. Et ça, c'est un mouvement tout à fait propre au début du XVIIe siècle, qui, bien sûr, ne sera plus retenu par les philosophies ultérieures, que j'étois une substance dont toute l'essence et la nature n'est que de pensée. Équivalence, en fin de compte, entre la substance et la pensée. Et qui pourrait être, la phrase n'est toujours pas terminée, et qui pourrait être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Ici, il y a un point, mais la phrase qui suit fait encore partie du même mouvement et va clore la linéa, en sorte que ce mouet, c'est-à-dire l'âme. Nous sommes très loin de Montaigne. Nous avons pris une distance quasiment infinie par rapport au moi de Montaigne, qui était un moi fait de pièces, en mouvement les unes par rapport aux autres, en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme, alors équivalence, hein, substance, pensée, moi, l'âme, tout ça est mis en équivalence. Par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne l'errouait pas d'être tout ce qu'elle est. Un très joli rythme, ça, d'ailleurs. Tout d'un coup, nous avons eu ces grands mouvements, et tout d'un coup, ce mouvement peut se parler, elle ne l'errouait pas d'être, c'est pour ça que c'est bien dommage que dans les éditions modernes, on mette laisserouait, elle ne l'errouait point d'être tout ce qu'elle est. Très, très curieux. C'est le Parkinson, là, que nous avons trouvé chez Vion, mais qui, cette fois-ci, c'est parce que l'anti-Parkinson, c'est l'assurance absolument fantastique. Alors, nous avions posé une première question, on avait dit, mais est-ce que Descartes est un philosophe? Fou, pas fou, peu importe. Bon, nous disons, ben voilà, il y a une catégorie neuve qui est la pensée. Et avec, la pensée bien sûr cartésienne, pas la pensée de ceux qui sont venus avant ou de ceux qui viendront après. Non, il n'y a jamais pour finir que des singularités au cours de l'histoire humaine. Mais est-il un littérateur? Mais je crois que la réponse est évidente. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, Descartes est un littérateur. Il a suffi de voir comment ça se lit. Ça se lit exactement comme que toujours quelque vent empêche de calmer. C'est d'une force absolument extraordinaire, comme littérature. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de bien voir donc que ce ne sont pas là deux choses. Il n'y a pas un philosophe, puis un littérateur, c'est-à-dire un philosophe qui écrirait bien. Bergson est un philosophe qui écrit bien. Non, c'est un philosophe qui est acculé de l'intérieur de son système à être un littérateur. Il n'y a pas moyen de faire le jeu de Descartes, c'est-à-dire que leur devoir de saisir dans une sorte d'éternité le rapport de A à B, de B à C, de C à D, etc. D'obtenir cette évidence qu'il veut avoir à l'intérieur de toute chose qu'il saisit, mais aussi à l'intérieur de toutes les relations entre les choses qu'il saisit, si on n'est pas en même temps un littérateur. C'est-à-dire, si on n'a pas au moins, il y a deux ou trois choses caractéristiques du style de Descartes, c'est d'une part, c'est cette vitesse, cette capacité de parcourir des choses très différentes sur des rythmes en quelque sorte identiques qui les apparient, le tout dans un langage qui soit en même temps massif. Il faut que tout mon corps, bien que je sois en train de nier le corps, il faut que tout en niant le corps, il faut que mon corps ait une densité, en sorte que ce mouet, c'est-à-dire l'âme, par laquelle je suis ce que je suis, lui n'a certainement pas la voix de Fossette Montaigne. Il a au contraire une densité de parole qui doit être équivalente à la densité de son regard dans la fameuse copie d'après Franz Hals que nous connaissons. Assurément, tout ce qui est dit ici de Descartes écrivain ne vaut pas pour les méditations cartésiennes, par exemple, qui sont une traduction amollissante et pour moi illisible des Meditationes, où Descartes se révèle un écrivain latin aussi extraordinaire qu'il est écrivain français. Par laquelle je suis ce que je suis est entièrement distincte du corps. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va falloir? Aussi des adverbes, aussi massifs que possible, du genre très évidemment et très certainement, et entièrement, c'est-à-dire, pour le dire d'abord en langage un peu vulgaire, mais les adverbes du bluff. Il va falloir effectivement, pour faire une philosophie de ce type, une pareille philosophie de l'évidence, il va falloir créer un style, un langage, qui soit un bluff stupéfiant, et qui est d'ailleurs réussi parfaitement, puisqu'il est devenu, d'enseignement commun, une vérité commune, de dire que Descartes écrit clairement, qu'il y a parfaitement moyen de suivre ses raisonnements. Or, il est impossible à peu près, non pas à peu près, il est strictement impossible de mettre l'alinéa que nous venons de parcourir depuis puis examinant avec attention jusqu'à « elle ne l'air ouais pas d'être tout ce qu'elle est », sous une forme logique. Il y a, c'est un raisonnement dans lequel il y a 6 ou 7, je n'ose pas dire prémices parce qu'il n'aime pas les syllogismes, mais il y a 6 ou 7 antécédents et d'où sortent 4 ou 5 conséquents. Donc il n'y a pas, d'une certaine façon, moins logique au sens habituel des logiciens que Descartes. Mais il est évidemment parfait du point de vue de la logique cartésienne. La logique cartésienne étant cette capacité de saisie et de ramassement. Alors, cette saisie de l'univers et plus seulement du monde est tellement extraordinaire, le bluff est tellement fantastique, que si je ne suis pas Dieu, je suis incroyablement proche de lui, et que même dans les évidences que j'ai de mes notions, de mes mots, je puis en saisir l'existence. À l'évidence extraordinaire que le locuteur français a de son environnement et de lui-même à travers cette langue tellement lisse qui a été mise au point par Malherbe et cette langue tellement filée, le filage de cette langue que nous avons vu se mettre en place à partir de la châtelaine de Vergy. Nous allons partir chez Descartes dans cette volonté de totalisation qui va devenir mathématicienne, qui va engendrer, bien sûr, c'est la totalisation la plus parfaite, c'est la géométrie analytique où je vais tenir les choses à la fois par l'évidence visuelle de la géométrie et par les enchaînements de propositions que je puis obtenir par le chiffrage de l'algèbre. Ce sera évidemment l'idée de parfait, ce qui est fait complètement, ce qui est totalement achevé, comme un poème de Malherbe, comme une phrase française de l'époque, qui va être ce concept dont je vais tirer l'existence. Au lieu que revenant à examiner l'idée que j'avais d'un être parfait, je trouvais que l'existence y était comprise en même façon qu'il est compris en celle d'un triangle, que ces 3 angles sont égaux à 2 droits. Et il est évident qu'à partir du moment où moi-même je suis ainsi si proche de ce Dieu, je vais commencer à pouvoir lire dans ses dessins, ou plutôt à partir de ses dessins. Mais ce qui montre bien, je crois que rien n'est peut-être plus éclairant sur ce qu'est la pensée, telle qu'elle est décrite ici par Descartes et par ce moment du XVIIe siècle, que ce qu'il va dire maintenant de la mémoire, mais même pas de la mémoire, de la conservation dans l'être. C'est, je pense, un passage particulièrement étonnant et c'est une nouvelle preuve, dit-il, de l'existence de Dieu. Écoutons-le. Je ne crois pas qu'on doute de la vérité de cette démonstration, pourvu qu'on prenne garde, donc de l'existence de Dieu, à la nature du temps ou de la durée de notre vie. Car étant tel que ces parties ne dépendent point les unes des autres et n'existent jamais ensemble, donc les moments de ma vie, ils ne sont pas ensemble, ce sont des moments tous singuliers. Ces parties ne dépendent point les uns des autres et n'existent jamais ensemble. Eh bien, de ce que nous sommes maintenant, il ne s'ensuit pas nécessairement que nous soyons un moment après. Si quelque chose, à savoir la même qui nous a produit, ne continue à nous produire, c'est-à-dire ne nous conserve. Et alors, pour nous, c'est extrêmement étonnant. Et nous connaissons aisément qu'il n'y a point de force en nous par laquelle nous puissions subsister ou nous conserver un seul moment, que celui qui a tant de puissance qu'il nous fait subsister hors de lui et qui nous conserve, doit se conserver soi-même, ou plutôt n'a besoin d'être conservé par qui que ce soit, et enfin qu'il est Dieu. Alors, il y a donc là une preuve, pour Descartes, particulièrement rapide de l'existence de Dieu. Et qui est ceci ? Et qui nous met au cœur de l'expérience de l'homme du XVIIe siècle, des 30-40 premières années du XVIIe siècle. Voilà, il y a ce moment, je pense, donc je suis d'ailleurs. Et puis, il faudrait faire un blanc ici, il y a un autre moment où je dis, je pense, donc je suis. Entre ces deux moments, il n'y a rien qui assure la continuité. Il y a d'ailleurs en dessous de ça une certaine expérience psychologique, c'est-à-dire que, en fin de compte, nous sommes tous endormis. Donc il n'y a pour finir qu'une succession d'instants quasiment foudroyants. Et d'où évidemment ces gens sont des littérateurs. Si vraiment vous saisissez ainsi le cours de la vie comme une succession d'instants foudroyants, vous êtes dans un éveil, dans une littérature perpétuelle. D'où je ne me saisis moi-même comme continuité quelconque que si je suis repris dans un principe qui me soutient du dedans, et qui est Dieu, le Dieu de Descartes, tel que le pense Descartes. Alors, tout ce mouvement, et là il faut bien le voir, va être un mouvement pratique. C'est-à-dire que ce Dieu qui conserve, il est créateur, il fait de rien, et il est conservateur. Arnaud répète ça tout le temps, nous avons vu que Bérulle le répétait tout le temps. C'est un Dieu qui fait le monde. Et donc le philosophe, qu'est-ce qu'il va être? Il va être celui qui est co-créateur. C'est pas un mot qu'il emploie, donc je ferais peut-être mieux de ne pas l'employer. Mais il va être à côté de la création. Il va saisir lui-même la création par le dedans. C'est-à-dire qu'il va être efficace, il va être pratique. D'un pratique et d'une force littéraire que l'on va retrouver jusque dans certaines des démonstrations mathématiques. C'est pourquoi, pour aller jusqu'au fond de la pensée cartésienne, qui n'est pas simplement donc sa façon de penser, non, cette chose particulière qu'est la pensée, il nous faut faire un dernier pas. Et c'est d'entrer dans ce que Descartes va appeler la volonté. C'est-à-dire que tout, dans la saisie des choses, est tellement intérieur, et non pas en étant ramené à l'intériorité, mais en procédant de l'intériorité, que pour finir, cette philosophie de la connaissance énergique, et donc littéraire jusque dans les textes mathématiques, va devoir concevoir quelque chose qui est en deçà encore de l'intelligence, et qui est la volonté. Et là, Descartes est stupéfiant, puisqu'il estime que la volonté divine, en tout cas, peut faire n'importe quoi. Nous arrivons à l'immanence totale. Dieu peut même faire en sorte qu'il ne soit pas vrai que les trois angles d'un triangle fussent égaux à deux droits. même les principes les plus évidents. Cette évidence elle-même ressort d'une volonté. On voit à quel point tout ceci va pouvoir éclairer l'exact contemporain qu'est Corneille. Bien sûr, nous autres, nous n'avons pas une volonté aussi immense, bien que d'une certaine façon, elle soit quand même infinie. Il n'y a que la seule volonté que j'expérimente en moi si grande que je ne conçois point l'idée d'aucune autre plus ample et plus étendue. Chacun a une volonté infinie. Cette pensée est en quelque sorte source absolue. Et elle est tellement absolue que, dans cette lettre au Père Ménant, où il dit que Dieu aurait pu faire que les trois angles d'un triangle ne soient pas égaux à deux droits, Descartes dit qu'évidemment, il y a quand même des choses qui sont difficiles à concevoir. C'est par exemple que Dieu aurait pu faire que les créatures ne soient pas dépendantes de lui. Et c'est très intéressant, parce que donc, là, effectivement, on rejoint tellement l'intérieur de la pensée humaine en tant que cet intérieur procède, se saisit comme procédant de la pensée divine, au sens cartésien de la divinité, que là, dit-il, c'est vraiment sans doute une limite, mais il continue en disant, mais vous savez, c'est peut-être nous qui ne comprenons pas, mais nous ne nous les devons point représenter pour connaître l'immensité de sa puissance, ni concevoir aucune préférence ou priorité entre son entendement et sa volonté. Car l'idée que nous avons de Dieu nous apprend qu'il n'y a en lui qu'une seule action, toute simple et toute pure, comme la pensée cartésienne elle-même, évidemment. Ce que ces mots de saint Augustin, Augustin est extrêmement à la mode à ce moment-là, puisque c'est lui qui avait dit que Dieu, tel que lui le concevait, était interior intimo meo. Il est plus intérieur que l'intime. Et l'intime est un superlatif, donc, en latin. Donc, il est plus intérieur que le plus intérieur de moi. Deus interior intimo meo. Et c'est d'ailleurs là-dessus, à peu près, que tombe Descartes. Ce que ces mots de saint Augustin expriment fort bien, dit-il. Quia vides ea sunt, parce que tu vois ces choses, elles sont. La vision et la volonté qui posent dans l'être et qui conservent dans l'être d'instant en instant, qui fait qu'à chaque instant, le monde entier, l'univers entier recommence à zéro. Il achève la phrase, parce qu'en Dieu, videre et velle, voir, et vouloir ne sont qu'une même chose, et c'est là d'ailleurs son idéal à lui le plus secret.